monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge pour vous présenter cette édition du 26 décembre 2018. République démocratique du Congo, report au mois de mars des élections dans trois régions alors que les résultats seront publiés le 15 janvier. Le groupe djihadiste d'Amadou Koufa revendique l'enlèvement d'un enseignant au Mali. Un parti de la coalition au pouvoir au Soudan réclame l'ouverture d'une enquête sur la mort de manifestants. Heurts dans plusieurs villes tunisiennes après l'immolation par le feu d'un journaliste. Et mort d'un deuxième enfant migrant guatémaltèque dans un centre de détention aux États-Unis, 16 jours après le décès d'une petite fille. La Minute Éco et les sports, ce sera juste après le journal. En République démocratique du Congo, les villes de Beni et Butembo dans l'est du pays, ainsi que Yumbi dans l'ouest, ne voteront pas en même temps que le reste du pays ce dimanche. Le scrutin a été reporté en mars dans ces trois localités, selon un nouveau calendrier électoral rendu public ce mercredi. Des détails avec notre correspondant à Kinshasa, Abdourahmane Dia.
C'est un énième rebondissement dans le processus électoral. L'épidémie d'Ebola et l'insécurité sont invoquées comme étant les raisons de ce report dans ces localités. L'annonce de la CENI signifie que plus d'1 200 000 électeurs ne participeront pas au choix du prochain président de la République, car ce dernier sera investi le 18 janvier, trois jours après la publication des résultats définitifs. Les résultats provisoires seront connus le 5 janvier. La CENI justifie sa décision, estimant que le code électoral permet de ne tenir compte que des suffrages valablement exprimés en cas de circonstances exceptionnelles. Les réactions n'ont pas tardé. L'UDPS a réitéré qu'elle irait aux élections même avec ce nouveau rebondissement. Donc, pour le parti de Félix Tshisekedi, il est hors de question de boycotter. Sur Twitter, l'opposant Martin Fayoulou parle de prétexte fallacieux car la campagne s'est déroulée dans les localités en question. Le candidat Théodore Ngoy, lui, qualifie d'illégal ce report dans ces trois localités. Abdourahmane Dia, Kinshasa, VOA Afrique.
Un enseignant a été enlevé samedi dans le centre du Mali. Le groupe djihadiste du prédicateur Amadou Koufa a revendiqué le rapt de Saïdou Togo, professeur d'anglais à Ténénkou. Koufa a été donné pour mort par les autorités maliennes et françaises après une opération militaire en novembre. Al-Qaïda au Maghreb islamique a démenti son décès. L'enseignant venait à Mopti par pirogue quand les djihadistes ont encerclé l'embarcation. Ils ont demandé les pièces d'identité des passagers. Quand ils ont vu son nom et sa profession, il a été enlevé, selon la famille et des collègues. Le rapt a été opéré car il n'a pas respecté la loi islamique qui interdit d'enseigner dans les langues des ennemis de l'islam, a affirmé dans une déclaration à l'AFP Djibril Cissé, un porte-parole du groupe qui est membre de l'alliance djihadiste de Yag Agali. Au Nigeria, 13 soldats et un policier ont été tués dans une embuscade tendue par les islamistes armés lundi dans le nord-est du pays, a annoncé l'armée aujourd'hui. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Un convoi militaire partant de Maïdougouri pour Damaturu, dans l'état de Yobe, a été attaqué d'après un communiqué de l'armée. Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, une faction dissidente de Boko Haram, a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une embuscade, mais plutôt de l'attaque d'une base militaire menée avec 8 camions armés et des combattants en moto près de Koukarita. D'après un soldat, les combats ont duré plus d'une heure et ont fait 17 morts, ajoutant que les terroristes ont mis le feu à la base militaire. Un employé de l'hôpital de Damaturu a confirmé ce bilan. En plus, un milicien d'un groupe d'autodéfense a fait état de 2 écoles brûlées à Koukarita et à Ngaourawa. Les attaques sur les cibles militaires sont fréquentes depuis juillet, certaines faisant de nombreux morts. Les chiffres sont toujours contestés par l'armée qui continue d'affirmer que Boko Haram n'a plus d'autant de pouvoir de nuisance. Le conflit entre l'armée et le groupe djihadiste a fait plus de 27 000 morts depuis 2009.
Un parti de la coalition au pouvoir à Khartoum demande une enquête sur la mort de plusieurs personnes dans les manifestations qui secouent le Soudan depuis le 19 décembre. Le point avec Idriss Fall.
Nous appelons le gouvernement à lancer une enquête sur ces morts. Ceux qui ont commis ces crimes doivent rendre des comptes, a déclaré Idriss Souleymane, un responsable du parti du Congrès populaire. Cette formation politique fondée par le leader islamiste Hassan al-Tourabi parle de 17 personnes tuées et 88 autres blessées. Amnesty International fait état de 37 morts, tandis que le gouvernement avance un bilan de 8 morts. C'est la décision du gouvernement de tripler le prix du pain le 19 décembre qui a mis le feu aux poudres. Des centaines de personnes ont manifesté encore hier à Khartoum, réclamant la démission du président Omar el-Béchir. Un dispositif de sécurité important a empêché toute marche vers le palais présidentiel. Dans une allocution télévisée hier, le chef de l'État a dénoncé des traîtres et mercenaires qui veulent saboter les institutions de l'État. Pourtant, lundi soir, dans sa première réaction depuis le début des manifestations, il avait promis de vraies réformes pour garantir une vie digne à ses citoyens. Hier, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Norvège et le Canada se sont dit inquiets et ont réaffirmé le droit du peuple soudanais à manifester pacifiquement.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les services américains de contrôle des frontières ont ordonné que tous les enfants migrants en détention soient soumis à des examens médicaux après la mort la nuit de Noël d'un garçon guatémaltèque de 8 ans, 16 jours après celle d'une fillette du même pays. Le point avec Nani Talani.
Le petit garçon, originaire du Guatemala, a été arrêté par le service de la protection des frontières à la mi-décembre. Ensuite, il a été transféré lundi avec son père vers un hôpital du Nouveau-Mexique après avoir montré des signes de maladie. Gardé en observation pendant 1h30, il est sorti de l'hôpital avec des médicaments prescrits. Dans la soirée, il a souffert de nausées et de vomissements et a été à nouveau transféré au centre médical où il est décédé peu avant minuit. Les causes de sa mort n'ont pas été établies. Le commissaire Kevin McAllenan a annoncé que l'agence menait des examens médicaux sur tous les enfants et était en train de revoir ses procédures avec une attention particulière sur la détention des enfants de moins de 10 ans. Le 8 décembre, une fillette guatémaltèque de 7 ans avait aussi perdu la vie dans un hôpital d'El Paso au Texas après son arrestation par les gardes frontières à l'issue d'un long périple. La mort de ces enfants a relancé le débat sur l'immigration aux États-Unis. Les démocrates fustigent le mépris de la vie humaine de l'administration Trump et appellent à mettre un terme à cette politique anti-migrant.
La doyenne de la Cour suprême américaine, Ruth Bader Ginsburg, a quitté l'hôpital où elle a été opérée pour des nodules cancéreux, a indiqué la haute cour. La magistrate s'était cassée des côtes lors d'une chute en novembre. Les examens médicaux avaient révélé des tumeurs bénignes dans un poumon. Les démocrates suivent avec appréhension ces bulletins de santé, craignant que son départ ne permette à Donald Trump de la remplacer par un juge conservateur. Le géant russe de l'aluminium Rusal a annoncé le départ du président de son conseil d'administration, l'allemand Matthias Warnig, comme il s'y était engagé auprès des autorités américaines pour obtenir la levée des sanctions de Washington. Le remplaçant de M. Warnig sera nommé dès jeudi, a indiqué le groupe dans un communiqué. En avril, l'administration de Donald Trump a placé sur sa liste noire le milliardaire russe Oleg Deripaska, alors principal actionnaire de Rusal, parmi d'autres oligarques proches du Kremlin, dans le cadre des sanctions contre la Russie. Le président ukrainien Petro Poroshenko a annoncé la levée de la loi martiale instaurée fin novembre dans plusieurs régions frontalières à la suite d'une confrontation maritime avec la Russie. L'armée russe a arraisonné le 25 novembre 3 navires de guerre ukrainiens au large de la Crimée et capturé les 24 marins se trouvant à leur bord, les accusant d'avoir illégalement pénétré dans ces eaux territoriales. L'aviation israélienne a bombardé des sites près de Damas la nuit dernière, blessant 3 soldats syriens, a rapporté l'agence officielle Sana. De son côté, l'armée israélienne affirme s'être protégée contre un tir de missiles antiaériens en provenance de Syrie. Plusieurs missiles ont été interceptés, a souligné l'agence, précisant que les avions de combat israéliens avaient tiré depuis l'espace aérien libanais. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
La société chinoise Zhejiang Wayu Cobalt investira 147 millions de dollars dans un projet de cuivre au Congo-Kinshasa. Le projet sera situé dans la région de Lukuni, dans le sud du pays, et aura une capacité de production annuelle de cuivre déposé par électrolyse de 30 000 tonnes. Le nouveau projet devrait être lancé d'ici septembre 2019. Wayu a déjà construit 2 raffineries de cobalt dans la région de Lusushi en RDC après avoir acheté les droits miniers de cuivre cobalt de la Générale des Carrières et des Mines en 2015. Au Rwanda, le produit intérieur brut a enregistré une progression de 7,7% durant le troisième trimestre de 2018 grâce notamment aux bonnes performances des secteurs des services et de l'industrie selon des données publiées par l'Institut national de la statistique. Cette progression met l'économie de ce pays sur la bonne voie pour atteindre le taux de croissance de 7,2% projeté pour l'ensemble de l'année 2018. Le secteur des services est le premier contributeur au PIB rwandais avec 48% devant l'agriculture qui a 28%. Le Rwanda table sur un taux de croissance de 8% en 2019. Terminons avec la Banque des États de l'Afrique centrale qui a annoncé une enquête dans les pays membres de la CEMAC sur la rareté des pièces de monnaie. L'institution financière veut déterminer l'ampleur et les circuits de la disparition des pièces d'argent afin de se doter des moyens pour circonscrire ce phénomène qui complique les échanges commerciaux. Selon les premiers éléments de l'enquête, les pièces d'argent sont transformées en bijoux ou en monnaie de jeu pour les machines à sous. Une découverte en ce sens avait été faite dans un entrepôt appartenant à un Camerounais et à un Chinois à Yaoundé au Cameroun.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Timothy Weah va être prêté par le PSG.
Oui, le PSG a annoncé que l'international américain va quitter ses coéquipiers pour un prêt de 6 mois sans indiquer le nom de son nouveau club. Fils du président libérien George Weah, Timothy ne précise pas non plus sa destination dans son message publié sur Instagram. Mais selon la presse britannique, l'attaquant de 18 ans pourrait rejoindre le Celtic dans le championnat écossais. Cette saison, il a fait 3 apparitions sous le maillot du PSG, dont 2 en championnat pour un but de marqué. Weah, né à New York, s'est imposé dans le même temps en équipe des États-Unis avec 8 sélections et 1 réalisation.
Ici aux États-Unis, justement, Sania prolonge avec Montréal.
L'ancien international français a prolongé son contrat avec Montréal jusqu'à la fin de la saison 2019, d'après l'annonce faite par cette équipe du championnat nord-américain de football MLS. Bakary Sagna, 35 ans, a été recruté en cours de saison dernière par l'Impact en provenance du club italien de Benevento. L'ancien latéral droit d'Arsenal et de Manchester City a disputé 9 matchs et marqué 1 but sous le maillot du club québécois.
Luka Modric, désigné sportif de l'année en Croatie.
Et oui, sacré ballon d'or début décembre, Luka Modric est récompensé après une année de rêve avec un 3e titre consécutif en Ligue des Champions et une finale au Mondial en 2018. Chez les dames, le titre est revenu à l'athlète Sandra Perkovic, 5 fois championne d'Europe du lancer du disque. La sélection nationale de football a été reconnue meilleure équipe de l'année.
On termine par la NBA, championnat de basket nord-américain. Les Lakers sont humiliés Golden State la nuit dernière.
Grosse démonstration des Los Angeles Lakers, 127 à 101. La franchise californienne restait sur 11 défaites consécutives à l'Oracle Arena et sur 7 revers de suite face aux Warriors. La victoire des Lakers pourrait toutefois être anecdotique si James devait être indisponible pendant une longue période. Le numéro 23 qui a marqué 17 points et capté 13 rebonds, a dû quitter ses coéquipiers durant la troisième période, se plaignant d'une douleur au niveau des adducteurs. Les sorties sur blessure sont rarissimes dans la carrière de LeBron James. Il faut remonter à avril 2016 pour trouver trace du dernier match manqué par le triple champion NBA et quadruple MVP.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la commission électorale a donc reporté les élections à Beni et Butembo dans l'Est, ainsi qu'à Yumbi dans le Sud-Ouest. Ces élections auront lieu au mois de mars 2019. Qu'en pensent les populations à Beni, où certains leaders de l'opposition ont été interdits de battre campagne? John Linden a posé la question à Nikez Kibelbeloka, directeur du journal Les Coulisses à Beni.
Ah, ici à Beni et Butembo, c'est un coup de foudre, c'est terrible. Les gens sont assommés, personne ne s'y attendait. Tout le monde s'était préparé à ces élections. C'est vraiment un coup dur et les gens les prennent ça pour un rêve. L'opinion n'en revient pas parce que on pouvait s'attendre à tout sauf à ça.
Du côté de l'opposition, vous avez des réactions?
C'est tout le monde qui est pris au dépourvu. Ça ne concerne pas que l'opposition, c'est toute l'opinion. L'opposition va réagir à sa manière, mais c'est surtout la réaction de la société civile qui est le porte-voix de 100 voix, comme on l'a dit, qui est plus important. La ville est comme touchée par un tsunami. Nous sommes tombés sur notre propre piège parce que Beni a presque empêché Félix Tshisekedi de battre campagne et le candidat Chadari a en dernière minute annulé sa venue à Beni et Butembo. L'opposition, comme la population, est tétanisée, donc et ça dépasse tout entendement. Les réactions sont pareilles, on ne fait pas la différence entre l'opposition et l'opinion. Certains vont même jusqu'à dire que c'était une façon de punir les populations de Beni et de Butembo pour s'être montrées intransigeantes envers les autres candidats que Martin Fayoulou.
Mais pourquoi est-ce qu'on a laissé les gens battre campagne à Beni si on savait qu'il y avait Ebola et les ADF?
Pour les motivations de la CENI comme du ministre de l'Intérieur, les raisons sécuritaires sont toujours au-dessus de toutes les autres raisons. Mais il y a quand même le doute parce qu'effectivement les gens ont battu campagne. Beni connaît un problème où il y a une partie de la population qui s'est délocalisée, ça c'est vrai. Et il y a aussi cette insécurité commise par une certaine frange de la population qui s'attaque aux équipes d'Ebola. Ça aussi, ça donne toutes les occasions aux organisateurs de saisir la balle au bon et de punir, comme pense une certaine opinion, que c'est une punition qui ne se justifierait que pour ces refus-là d'accepter Ebola, de s'attaquer aux équipes de la riposte et aussi de refuser les autres candidats.
Est-ce que dans 3 mois, le gouvernement aura fini avec Ebola et vaincu les ADF?
En fait, c'est un défi que le gouvernement, à travers la CENI, lance à la population que nous sommes. Parce que d'abord, il faudrait que la population comprenne qu'il faut laisser les équipes de riposte faire leur travail pour ne plus donner raison au gouvernement. Ça, c'est un des deux. Il faudrait aussi que la population collabore avec le FRDC et la MONUSCO dans le renseignement pour arriver à neutraliser les ADF. Rien ne rassure que dans les 3 mois, on aura neutralisé les ADF et on aura fini avec Ebola. Donc, nous allons observer et voir la bonne foi est de quel côté.
C'était Nikez Kibelbeloka, directeur du bimensuel Les Coulisses à Beni en République démocratique du Congo.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
La commission électorale congolaise a évoqué des raisons sécuritaires et sanitaires pour justifier sa décision de renvoyer au 30 mars 2019 les élections à Beni, Butembo au nord Kivu et Yumbi dans la province du Mayendombe. L'opposition accuse la CENI d'avoir écarté des circonstances électorales qui lui sont acquises. La conférence épiscopale nationale du Congo, quant à elle, parle d'un agenda caché des autorités électorales. Sur ces questions, écoutons le reportage de Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
1,256,177 électeurs sur les 40 millions que compte le fichier électoral sont, du fait de cette décision de la Commission électorale nationale indépendante, exclus du vote de ce dimanche 30 décembre 2018. Pour Moïse Ndonzangi, le coordonnateur de la coalition Lamuka de Martin Fayulu au Nord Kivu, les villes de Beni et Butembo ont été exclues parce que bastion de l'opposition.
Nous déplorons le fait de voir, après la campagne, après avoir réalisé des grandes mobilisations, que la CENI puisse trois jours avant le vote venir nous prendre avec une décision unilatérale. Vous savez que Beni, Butembo sont des zones qui sont totalement acquises à l'opposition.
À l'UDPS, on renvoie la balle à la CENI pour justifier cette décision. Paul Tshilumbu, le porte-parole du parti de Félix Tshisekedi, réaffirme la détermination de son parti à aller aux élections, même sans les quatre circonscriptions exclues du fait de la décision de la CENI.
Nous irons aux élections, nous n'allons pas boycotter les élections, mais pour le cas de Beni, Butembo, cette question c'est à la CENI justement de répondre, mais pour nous, nous irons aux élections le 30, même sans ces quatre circonscriptions.
La majorité présidentielle, elle, a réagi par un communiqué et dit comprendre le report des élections à Beni, Beniville, Butembo et Yumbi pour des raisons sécuritaires et sanitaires qui, selon elle, se justifient. C'est une décision très grave et curieuse pour l'abbé Donatien Cholet, le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo.
C'est une décision très grave, curieuse, entre la concentration des masses pendant la campagne électorale et les gens qui vont s'aligner au nombre déterminé devant un bureau de vote pour exprimer leur soutien. Où est-ce qu'il n'y a plus de danger à la contamination de l'épidémie Ebola? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas interdit la campagne où les gens étaient plus exposés et on attend après la campagne? On a constaté l'engouement qu'on a autorisé. Je trouve qu'il y a quelque part un agenda caché.
Une autre réaction à ce report, c'est celle de Jérôme Bonso, expert en matière électorale.
Ça ne pouvait pas avoir l'incidence ou l'impact, du moins en ce qui concerne l'élection présidentielle. Beni, Yumbi vont voter après quand les conditions sécuritaires seraient réunies. Il y a eu deux provinces importantes au Cameroun, les provinces anglophones qui n'ont pas participé aux dernières élections camerounaises, mais cela n'a pas empêché que les résultats du présidentiel ne puissent pas être publiés.
Enfin, Edgar Matesso, le président de la société civile de Butembo, appelle la CENI à retirer sans délai sa décision qu'il juge infondée. Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Ce soir dans À votre avis du 26 décembre 2018, en RDC, les élections sont reportées pour mars pour les territoires de Beni, Butembo et Yumbi, mais les résultats de la présidentielle du 30 décembre, eux, seront publiés le 6 janvier. Qu'en pensez-vous? Quel impact auront les voix des endroits délaissés dont les résultats tomberont en mars? Que pensez-vous de façon générale du processus électoral en RDC? Bagassi Koura, en votre compagnie, réagissez en direct à 18h temps universel en appelant au 001-202-205-2633. Commentez et laissez vos numéros sur notre page Facebook, nous vous rappellerons.
Une nouvelle moyennement bonne pour les Burkinabés qui devront faire face à de nouvelles taxes en 2019. C'est ainsi que le gouvernement compte réduire son déficit budgétaire. Ainsi, les véhicules, les boissons non alcoolisées, les billets d'avion et bien d'autres produits connaîtront une hausse. L'opposition s'insurge contre ce nouveau régime fiscal, tandis que la population estime que la vie est déjà bien assez chère dans le pays. Voici sur cette question un reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Le gouvernement burkinabé a récemment adopté son budget 2019 et le compte n'y est pas. Le déficit se chiffre à plus de 250 milliards de francs CFA. Comme solution, l'exécutif a décidé d'augmenter les recettes en créant de nouvelles taxes. De nouvelles mesures fiscales qui concernent les véhicules, les boissons non alcoolisées, les billets d'avion, la parfumerie, les armes à feu, le café, le thé et bien d'autres produits.
Pour les véhicules à 4 roues, jusqu'à 8 chevaux, c'est 7 000 francs.
Rosine Sori Koulibaly est la ministre de l'économie.
De 9 chevaux à 15 chevaux, c'est 10 000 francs. Et de 16 chevaux à 20, 20 000 francs. Plus de 20 chevaux, 30 000 francs. Donc voilà un peu les mesures qui ont été prises et pour lesquelles il y a tout un tollé. Pour dire qu'on est en train d'imposer tout le monde, on a vraiment choisi les secteurs pour lesquels nous pensons que nos mamans qui sont dans le village qui n'ont pas, et les enfants qui ne peuvent pas donner un repas chaud à leurs enfants, que ces personnes-là ne sont pas concernées par les nouvelles mesures fiscales.
L'opposition a voté contre la loi des finances 2019, estimant que cette loi va diminuer davantage le pouvoir d'achat des Burkinabés.
Nous avons dit que ce budget opère un matraquage fiscal.
Alphonse Nombré est député du CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès.
Il y a de nouveaux impôts qui ont été institués, qui viennent même remettre en cause des acquis sociaux pour l'investissement. Vous savez que c'est l'investissement qui crée la richesse dans un pays. En 2018, le taux de l'investissement par rapport aux ressources générales de l'État était à hauteur de 44,5%. Pour 2019, ce taux revient à 24%. Alors, en ce moment-là, quel est le projet du gouvernement pour répondre aux préoccupations des populations? Nous posons la question.
Pour une bonne partie de la population, c'est difficile de tenir le coup dans ce contexte de vie chère. Patrice Tiombiano, habitant à Ouagadougou.
Vu tout ce qui est en train de se passer, on ne fait que subir, on n'a pas le choix. On va voir avec le temps, nous pensons qu'on a beaucoup de taxes même qu'on paye, on ne s'en sort pas et cela vient s'ajouter. Vraiment, ce n'est pas chose facile pour ce pays-là.
Yacouba Dioni, aussi habitant à Ouagadougou, pense que c'est normal de payer les taxes.
Si on vit des taxes, on n'a pas pétrole ici. L'or là aussi, ça ne nous profite pas. Comment on va faire? Il faut une contribution seulement. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de tel.
Cette mesure du gouvernement intervient quelques semaines après l'augmentation des 75 francs CFA, le litre de carburant. Les recettes du budget de l'État 2019 sont estimées à 1955 milliards de francs CFA, pour plus de 2212 milliards de francs CFA en dépenses. La masse salariale s'élèvera en 2019 à 836 milliards de francs CFA, pour moins de 200 000 fonctionnaires. Lamine Traoré, Ouagadougou, VO Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
En Tunisie, de nouveaux heurts ont éclaté cette nuit dans trois villes après l'immolation par le feu d'un journaliste à Kasserine, dans l'ouest du pays. Kasserine est l'une des premières villes où avaient éclaté fin 2010 des manifestations populaires contre l'ancien président Ben Ali. Assisterait-on à l'émergence d'un nouveau printemps arabe? Pour une analyse, Idriss Fall a joint notre confrère Mourad Selami, directeur de l'info du journal Le Quotidien à Tunis.
Non, pas vraiment. Je pense qu'il s'agit d'un acte isolé qui dénote plutôt d'une situation sociale difficile vécue par des jeunes tunisiens qui ne parviennent pas à faire face aux difficultés de la vie. Ce ne sont pas les mêmes prémices qu'en 2011 ou en 2010, non. C'est plutôt un rejet contre des difficultés plus qu'une explosion sociale généralisée.
Mais Sidi Bouzid, un jeune marchand ambulant, était aussi immolé par le feu.
Oui, je sais, mais depuis, les choses ont changé. Du moment qu'il y a eu pas mal d'immolations par le feu, sur les 8 ans vécus par la nouvelle Tunisie, 2 ou 3 dizaines de gens immolés par le feu, le phénomène ne crée plus les mêmes réactions. D'ailleurs, même les réactions citoyennes lors des funérailles du journaliste Abdelazer n'ont pas été une occasion pour faire redémarrer l'explosion sociale. De l'avis même de tous les partis politiques, de la centrale syndicale, de la société civile, il y a même une éventualité que ce Abdelazer, que l'acte d'incendie, il est prémédité, oui, mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait incendier.
Oui, apparemment, le ministre de l'Intérieur dit avoir arrêté même une personne en rapport avec ça.
Ma source n'est pas le ministère de l'Intérieur. Ma source, c'est la vidéo que j'ai vue moi-même, plusieurs vidéos de plusieurs angles différents. sur ces vidéos, il y a bien quelqu'un qui était juste derrière un braiseur et lorsque le feu s'est déclenché, il s'est enfui un peu.
Et vous pensez que ces tensions sociales, le gouvernement a les moyens de régler les problèmes de pauvreté dans l'ouest de la Tunisie?
Pas vraiment. Mais il ne faut pas oublier qu'en 2010, l'UGTT, c'est-à-dire les syndicalistes, étaient avec la révolte populaire. La classe intellectuelle était aussi contre Ben Ali et avec le soulèvement populaire. En ce moment, tout le monde est conscient des difficultés traversées par la Tunisie. Par conséquent, les réclamations ne sont pas telles qu'elles étaient en 2010. C'est-à-dire qu'il y a une conjoncture générale en 2010 qui n'est pas la même en 2018.
C'était notre confrère Mourad Selami du journal Le Quotidien Tunis. Et c'est la fin de cette édition. La mise en onde, c'était Georges Léonard Sagnot. À la console, Sidrac Franklin. À la présentation, Nathalie Barge. Très bonne soirée à tous. Afrique.